Radio Okapi.
Au sommaire ce matin, des cours de récupération seront dispensés aux enfants déplacés du Nord Kivu avant leur réinsertion dans d'autres écoles d'accueil. Ce SOS émane de l'UNICEF pour permettre aux élèves en difficulté de terminer l'année scolaire. Le manque d'électricité à plein régime dans certains hôpitaux de Kinshasa a un impact négatif sur la santé des malades. Situation ne peut plus alarmante à Kintambo, à Selembao, mais aussi au Centre National de Transfusion Sanguine. Et puis, 30 jours nous séparent de l'élection des gouverneurs du Bas-Congo et de la province orientale. La CENI tend la main pour cela au gouvernement afin de pourvoir aux moyens financiers y afférents. Bonjour à tous. Commençons par ce cri d'alarme de l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour la protection de l'enfance, à 2 semaines de la rentrée scolaire en RDC. Près de 60 000 enfants du Nord Kivu pourraient ne pas accéder à leurs écoles le 3 septembre. Pour Madame Marceline Eboma, administratrice chargée de l'éducation au bureau de l'UNICEF à Goma, cette situation ne fait qu'aggraver en ce moment la scolarisation des enfants déjà difficile en province. Ainsi, l'UNICEF a lancé jeudi dernier la campagne pour la rentrée scolaire 2012-2013. Une campagne au cours de laquelle 113 écoles seront appuyées par cette agence onusienne. Marceline Eboma revient ici sur le projet au micro de Rosalie Zawadi.
Nous avons dénombré jusqu'ici 258 écoles pillées, détruites, occupées, incendiées, etc. Et cela fait que au moins 60 000 enfants pourraient ne pas avoir accès à leur école au 3 septembre. Mais aussi parmi ces enfants, beaucoup sont déplacés. Nous sommes en train de prévoir la récupération de tous les enfants déplacés qui sont dans les camps ou les sites spontanés, dans les familles d'accueil. Ces enfants seront pris en charge parce que, si vous ne le savez pas, la plupart de ces enfants n'avaient même pas terminé l'année scolaire passée. Ils n'ont pas de bulletin. Et donc, la première chose à faire, c'est donner l'opportunité à ces enfants de terminer l'année scolaire 2011-2012 par des cours de récupération. Et après cela, ces enfants pourraient être réinsérés dans les écoles d'accueil.
À Kinshasa, la situation salariale des enseignants et leur paye par voie bancaire était au centre d'une rencontre organisée samedi dernier à Kinshasa entre le ministre de l'EPSP et l'intersyndicale de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. S'ils se disent globalement satisfaits de la bancarisation de leur paye, les enseignants réclament cependant l'augmentation des salaires. À cet effet, ils ont remis un cahier des charges au ministre. En réponse, Makaire Mwangufamba a indiqué que le gouvernement va étudier leur doléance et prendra une décision à ces sujets précisément. Toujours selon Makaire Mwangufamba, les deux parties sont tombées d'accord pour que la rentrée scolaire ait lieu le 3 septembre comme initialement prévu. On l'écoute au micro de Nadine Foulansimba.
L'année passée, nous avons eu des négociations avant la rentrée scolaire. Le gouvernement a alloué au secteur de l'EPSP près de 2 milliards de dollars supplémentaires mensuels. Et cette année, ils viennent de déposer leur cahier des charges. Nous allons l'exploiter. C'est à l'issue de l'exploitation des négociations que nous allons avoir avec eux que nous verrons quel peut être le comportement du gouvernement pour des circonstances exceptionnelles que eux-mêmes ont comprises. La rentrée scolaire est fixée au 3 septembre et nous aurons donc les réunions après. Donc ça fera peut-être au premier trimestre après la rentrée scolaire, donc avant la fin de l'année civile, nous pourrons avoir des discussions avec eux. Mais en tout cas, on s'est mis d'accord, comme chaque année d'ailleurs, pour la date de la rentrée scolaire, et c'est le 3 septembre.
Les coupures intempestives d'électricité enregistrées ces jours-ci causent des sérieux dommages aux institutions sanitaires de la capitale. À la maternité de Kintambo, par exemple, la prise en charge des prématurés est devenue un véritable casse-tête suite au manque d'électricité. Certains hôpitaux, comme la polyclinique de Selembao, sont dans le noir depuis plusieurs mois maintenant et évacuent très souvent les malades dans d'autres structures sanitaires avec des risques d'enregistrer des cas de décès au moment de leur transfèrement. Le reportage de Michel Kifinangoé. Les malades payent parfois de leur vie suite au manque d'électricité dans des institutions sanitaires. La maternité de Kintambo dans la commune d'Engadiema, par exemple, ne fonctionne qu'à partir des après-midi par manque du courant tous les avant-midi. Docteur Louyeye, médecin directeur.
Le fait qu'on n'a pas l'électricité l'avant-midi fait que nos machines ne peuvent pas fonctionner à temps plein. Ça a un impact sur la santé malade, du fait que ça ralentit les services.
Cette situation qui touche sans doute plusieurs autres structures médicales est plus préoccupante à la maternité de Kintambo. Témoignage.
J'ai amené ma femme qui a mise au monde ici, j'ai remarqué toute la nuit, il n'y avait pas de courant. Et d'ailleurs, les mêmes jours-là, il y avait un cas de prématuré. Mais on a dû prendre l'enfant et l'acheminer ailleurs.
À la polyclinique de Selembao, c'est pire encore. Ici, la stérilisation du matériel pour les interventions chirurgicales pose un sérieux problème. Dieudonné Kondi, directeur du nursing.
On est vraiment dans l'extrême. Le petit centre d'à côté nous envoie de malades. Mais quand nous trouvons qu'on est déjà 18 heures comme ça, on ne sait plus rien faire parce qu'on ne peut pas travailler dans le noir. Ce qui fait que nous les envoyons ailleurs. Or, la référence est un problème sérieux. Ça peut amener à de morts en cours de route.
Pendant ces temps, au Centre national des transfusions sanguines, la situation n'est guère satisfaisante, car le manque d'électricité pose des sérieux problèmes de conservation de sang.
Et puis, après la déclaration de l'épidémie de la fièvre Ebola en République démocratique du Congo par le gouvernement, le programme national d'hygiène aux frontières ex-direction de la quarantaine internationale s'est réuni le week-end pour étudier la mise en œuvre de mesures prises par le ministère de la Santé publique. C'est notamment le contrôle par une fiche que le voyageur devra remplir à son arrivée dans la capitale congolaise comme dans les autres postes frontaliers. Des précisions avec le docteur Michel Massoudi, directeur adjoint du programme national de l'hygiène aux frontières. Il est au micro de Berry Franklin Luchaka.
Nous allons faire passer tous les voyageurs, disons, à un contrôle. Ce sera juste une fiche sanitaire, de manière à ce que nous puissions récolter auprès de ces voyageurs des signes qu'on pourra attribuer, disons, à la définition de cas de la fièvre Ebola, de manière à ce que ces personnes soient bien fichées, de telle sorte qu'il y ait un suivi par rapport à l'endroit où ils vont et les personnes qu'ils devront contacter si, par après, il s'avère qu'ils ont été des cas positifs. Sous la fiche, oui, il y a l'adresse de destination. Et ça, c'est important, de manière à faire que si cette personne-là, par exemple, au niveau de la frontière, il manifeste certains signes, on pourrait, disons, l'acheminer vers un centre de santé, par exemple, si on retrouve beaucoup de signes qui entrent dans le cadre de la définition de cas. À ce moment-là, il peut y avoir un suivi par après, de manière à faire qu'il puisse avoir, disons, récolte des échantillons, de manière à faire qu'on puisse faire la paraclinique. Ou encore, s'il s'avère que cette personne-là, par après, est identifiée positive, on peut facilement remonter à toutes les personnes qui ont été en contact avec elle.
Et pour d'amples informations sur la fièvre hémorragique d'Ebola qui sévit en ce moment en RDC, suivez le ministre de la Santé, Félix Kabangé-Numbi, à partir de 7h33 sur nos antennes. Autre nouvelle, la province orientale et le Bas-Congo connaîtront d'ici 30 jours les noms de leurs nouveaux gouverneurs. Nouvelle annoncée à Radio Okapi par la Commission électorale nationale indépendante. La CENI dit avoir été saisie à ces sujets samedi dernier par la présidente de la République et le ministère de l'Intérieur. Un budget et un calendrier des échéances sont donc à pourvoir le plus tôt possible. La CENI dit par ailleurs compter sur le gouvernement pour que les moyens soient débloqués à temps afin de respecter les délais. Le vice-président de la CENI, le professeur Jacques Djoli, au micro de Dona Madimba.
Nous allons, dès le début de cette semaine, donc aujourd'hui, entrer en contact avec l'équipe gouvernementale chargée de la thématique électorale, à savoir le ministre de l'Intérieur, le ministre des Budgets et le ministre des Finances, pour que le moyen prévu soit mis à notre disposition, de sorte que nous puissions nous conformer à l'obligation légale d'avoir les futurs gouverneurs dans moins de 30 jours. Dès que nous aurons terminé les concertations avec le gouvernement, nous allons incessamment, à travers les services techniques de la CENI et le rapporteur et l'ensemble du bureau, publier officiellement les calendriers. Maintenant, nous travaillons sur des drafts techniques qui doivent être validés par le moyen financier que nous devons avoir du gouvernement.
Et concernant le Kasaï occidental, qui n'a plus de gouverneur depuis la déchéance d'Hubert Kabasubabu Katulondi par l'Assemblée provinciale, Jacques Djoli affirme que la situation de cette province est préoccupante. Mais puisque l'affaire est pendante à la justice en ce moment, la CENI attend son dénouement qu'elle espère imminent pour organiser là aussi le scrutin, indique Jacques Djoli. Notez que le Kasaï occidental est dirigé par le ministre provincial de l'Intérieur. Notez également que le Bas-Congo et la province orientale sont gérés ce jour-ci par des gouverneurs intérimaires, les titulaires ayant préféré prester comme députés à l'Assemblée nationale. Terminons par cette autre face du conflit armé qui sévit en ce moment à l'est de la RDC. Elle met l'accent sur la situation des femmes déplacées et mères de plusieurs enfants. La plupart d'entre elles ont entre 20 et 35 ans. Elles n'ont plus de mari et n'ont aucune notion sur le planning familial. C'est un spectacle plutôt désolant que décrit pour nous Astrid Mujinga qui les a rencontrées à Katana au sud Kivu.
Beat Mwarutekanga a environ 35 ans, mais on lui donnerait beaucoup plus. Les naissances rapprochées et la misère l'ont fait vieillir précocement. Elle a 10 enfants. Nzigiri a quant à elle 26 ans. Elle a 5 enfants. Elle en attend un sixième et elle est à terme. Elles disent toutes n'avoir pas souhaité avoir tous ces enfants. Elles sont également conscientes que l'avenir de ces enfants est incertain. Mais elles ne savent pas quoi faire et s'expliquent.
J'ai 10 enfants devenant de Malingo. Moi j'ai 5 enfants. Mon mari est parti, je n'ai aucune idée de là où il peut être. Nous allons au centre de santé pour ce programme. Mais quand nous y arrivons, on nous demande de l'argent. Or nous n'avons rien. Alors la solution c'est de rester à la maison.
Ce qui est frappant dans leur histoire, c'est que de toutes les femmes déplacées que nous avons rencontrées, deux seulement avaient leur mari. Toutes les autres avaient déclaré avoir fui seules avec leurs enfants et qu'elles n'avaient aucune nouvelle de leur mari alors qu'ils avaient fait plus ou moins une année. Selon les ONG locales qui s'occupent de l'identification de ces déplacés, le programme de planning familial est un besoin qui se fait sentir tout autant que des aides humanitaires dont ces femmes peuvent bénéficier. Bukavu, Astrid Mujinga, Radio Okapi.
C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Nana Bolodjoa, c'est à vous.
Okapi, Okapi, Radio Okapi.